C'est au départ, effectivement, les jeux qu'on a créés, nous, c'est plus orienté entreprise. Mais après, en fait, notre cœur de métier, c'est les interactions humaines, en fait. Enfin, l'expérience et l'humain, voilà, grosso modo.
Merci pour le thé.
Mais non, ouais. Je veux dire.
Donc, du coup, on se lance?
Ouais, c'est parti.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La boîte à idées du manager culturel. Aujourd'hui, grâce à notre invité, nous allons découvrir un outil que vous ne pensiez peut-être pas ajouter à votre boîte à idées de manager, le jeu. François est pilote de la création de jeux à Forma Ludique, une équipe dédiée à la création de jeux et à l'innovation pédagogique qui a ses bureaux au sein du tiers-lieu TCRM Blida à Metz. Bonjour François.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de passer un peu de temps avec moi pour me parler de ton entreprise. Alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter?
Oui, bah déjà, je tiens moi aussi à te remercier voilà, pour l'intérêt que tu portes à notre démarche et pour être venu me rencontrer. Alors, je parle de Forma Ludique en général. Alors en fait, le point de départ de Forma Ludique, ben, c'est très certainement un constat et peut-être de la tristesse aussi. Et en fait, ce constat, c'est maintenant quand je, alors c'est vraiment très personnel, hein, mais quand je regarde mon environnement, quelque part, ça m'attriste de voir dans quelle mesure les interactions humaines sont conditionnées, sont régulées par finalement du conflit, de l'incompréhension, du jugement. Et forcément, ben, l'entreprise, ben, donc ce constat se vérifie malheureusement totalement. Voilà, et donc ça concerne bien entendu ben, les managers et leurs équipes. Et donc, chez Forma Ludique, on a décidé de mobiliser des jeux de société voilà, pour nous attaquer à ce problème. Donc, on a créé une dizaine de jeux de société qui permettent d'expérimenter des situations, des interactions humaines dans le cadre de situations de management, de coopération, de changement aussi, voilà, de vivre le changement dans le cadre des jeux. Et au-delà des expériences, vraiment au-delà des jeux, on a aussi créé un modèle d'apprentissage hein, qui permet de mobiliser les jeux et aussi d'en tirer le maximum d'enseignement. Le but, c'est pas juste d'expérimenter, mais c'est de pouvoir voilà, en tirer le maximum d'enseignement et pouvoir faire évoluer les pratiques. Alors, pour résumer dans les grandes lignes, voilà, en fait, ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'on arrive à créer un environnement sécurisé dans lequel du coup, les joueurs s'investissent pleinement et qui permet d'activer vraiment deux leviers qui, à mon sens, sont vraiment essentiels dans l'apprentissage. Le premier levier, ben, c'est l'implication émotionnelle. C'est avoir une intensité émotionnelle, et c'est ça qui permet de déclencher l'apprentissage, mais aussi d'ancrer ben, du coup, les enseignements, les pratiques. Et le deuxième levier, c'est une compréhension. Il faut avoir une compréhension profonde de ce qui se passe, parce que le but, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas juste bah, du coup, de changer les pratiques, c'est aussi de les faire évoluer dans le bon sens. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir ces deux dimensions, à la fois une intensité émotionnelle et une bonne compréhension de ce qui se passe.
Et donc, ben, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours et comment toi et tes associés vous vous êtes lancés dans ce projet?
Alors, effectivement, je vais commencer par moi, c'est un peu impoli, mais. Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai fait plusieurs métiers. Et donc, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs univers professionnels aussi. Alors, je pense qu'à titre personnel, finalement, ce qui m'a le plus enrichi, c'est mon expérience en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que manager. Et en fait, j'ai rencontré Raphaël et Baptiste dans le cadre du Master 2 Management des ressources humaines que j'ai réalisé à l'IE de Metz. Raphaël, en fait, Raphaël Hoche est formateur, consultant depuis une quinzaine d'années sur le thème du management, du changement, des ressources humaines. Et au départ, il est psychologue du travail, il a aussi un Master 2 en ressources humaines. Et Baptiste Rapin est responsable de la filière RH à l'IAE. Donc, il est maître de conférence, il a un doctorat en sciences de gestion et il a aussi un DE en philosophie. Voilà. Donc, à chaque fois, on a tous plusieurs facettes. C'est aussi ce qui rend la collaboration intéressante.
C'est riche.
Et du coup, ce qui était. Donc, je pense que la question du jeu, effectivement, c'est quelque chose qui m'avait déjà titillé il y a quelques années. Mais c'est vraiment ma rencontre avec Baptiste et Raphaël qui était le déclencheur voilà, de ce projet. Parce qu'on a, à nous trois, en fait, on réunit vraiment plusieurs univers. Ça permet d'avoir plusieurs cordes à notre arc et vraiment d'enrichir le concept. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu étais joueur
Ah oui. Du coup, là, enfin, c'est moi, le jeu, c'est quelque chose. c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé, et notamment voilà, l'exploration de mécanismes. En fait, au départ, hein, ce qui m'a attiré dans le jeu, c'était le côté peut-être plus stratégique, logique, réflexion.
Mm-hmm.
Et en fait, ce que j'y ai découvert, c'est davantage finalement ce côté interpersonnel, cette expérience du coup avec d'autres joueurs. Voilà. Et donc, du coup, avec une palette large de jeux qui me passionne. Puis c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de création.
Et du coup, qu'est-ce que pour toi le management et en quoi le jeu peut être utile au manager?
Ok, alors, en fait, pour moi, dans le management, il y a vraiment deux dimensions. Il y a une dimension qui est plus celle de la coordination, l'organisation du travail. Donc, c'est là qu'un manager s'appuie sur des règles, des process, voilà, des procédures. Et, alors, c'est une dimension qui est essentielle, mais qui n'est pas suffisante. Et à mon sens, il faut vraiment un deuxième volet. Qui est celui de rendre possible la coopération, de mobiliser un collectif, aussi de rendre intelligent. Voilà. Et sur ce volet-là, c'est d'ailleurs là-dessus vraiment qu'on travaille essentiellement. Voilà. Et c'est en fait ce volet qui est en général le plus malmené en fait, en entreprise. Voilà. Et à mon sens, il faut vraiment réussir à combiner ces deux dimensions, voilà, pour, à la fois pour avoir une entreprise qui fonctionne bien humainement, et puis ça a du sens aussi d'un point de vue économique. Voilà. Alors après, ce que ça apporte, alors ce qui est un peu magique dans le jeu, c'est que on vit en fait les expériences qu'on a besoin de vivre pour progresser. Alors pour une bonne raison, c'est que les difficultés qu'on rencontre dans la vie réelle, on les rencontre aussi dans les expériences du jeu.
Ouais.
Seulement là, on est dans un environnement pédagogique qui permet de vraiment comprendre ce qui se passe et de pouvoir essayer autre chose, de faire évoluer des pratiques. Voilà. Là où l'environnement professionnel est souvent... ils sont bloquants. Voilà. Mm-hmm. On est bloqué par nos représentations, on n'essaie pas, on n'ose pas. Voilà. Et là, le jeu permet justement de se lâcher et aussi on mobilise le collectif pour ça. On a un regard positif, bienveillant, voilà, dans le questionnement et dans les essais qu'on peut faire.
C'est vrai que c'est intéressant cette idée. Quand on joue, eh ben, on peut réessayer et conscientiser du coup ce qui s'est passé.
Mm-hmm.
Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est dans la pratique du quotidien et qu'il y a une difficulté qui se présente.
C'est vrai. En fait, on est un peu seul en tant que manager, hein, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vrai que on ne peut pas, à la fin de la journée, aller voir son équipe en disant « Alors, est-ce que j'ai été bon ? Voilà, j'ai trouvé que ça, c'était un peu difficile. » Voilà, c'est difficile. En fait, on n'a pas de feedback de son équipe.
Ouais.
Et on n'a pas forcément de feedback, on va dire, sincère de ses pairs. Et la relation avec sa hiérarchie est aussi parfois compliquée. Donc c'est vrai que c'est vraiment difficile, voilà, d'avoir un environnement dans lequel on peut avoir l'information dont on a besoin. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on partage vraiment, l'expérience, on a vraiment le regard et l'environnement, voilà, qu'on crée favorise à la fois la confiance, mais aussi responsabilise chacun. Voilà. Et c'est ça qui permet d'avoir à chacun de progresser finalement.
Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne quand tu es manager ou que tu as une entreprise et qu'on veut travailler avec format ludique ?
Alors, en fait, on peut travailler de plusieurs façons.
Mm-hmm.
Donc, on fait de la formation, donc on peut intervenir en tant que formateur et donc mobiliser les jeux en fonction des problématiques, voilà, qu'on veut aborder. Sachant que, bien entendu, dans les formations, on n'utilise pas que le jeu c'est une des étapes, voilà, de l'apprentissage. Après, selon les besoins, on peut aussi, on vend aussi des jeux et on forme des formateurs internes. Voilà, ça, c'est par exemple le cas des entreprises qui souhaitent développer des parcours d'intégration. C'est logique qu'ils maîtrisent l'intégration de leurs collaborateurs. C'est aussi le cas, par exemple, d'entreprises qui vont enclencher un changement, qui ont une équipe interne qui va piloter ce changement, qui va accompagner leurs collaborateurs. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir des outils internes, d'équiper les formateurs internes. Et après, donc là, nous, on a développé une gamme de jeux qui permettent, voilà, de travailler sur un stand de problématiques. Mais on crée aussi des jeux sur mesure pour aborder des problématiques spécifiques. C'est comme ça qu'on a travaillé sur la question de l'autisme, ou alors de la parentalité, de l'apprentissage, du rapport parent-ado. Voilà.
Et vos jeux sur les problématiques un peu classiques, c'est lesquels ?
Alors, on a un jeu qui, par exemple, le premier jeu qu'on a créé s'appelle Scène de crime. C'est dans l'univers du polar.
Ouais.
Et donc... on crée un polar, voilà, et c'est ça qui permet, en fait, dans ce contexte-là, qu'on expérimente la posture du manager. Voilà. Et ce qu'on peut vraiment observer, c'est qu'en fonction de la posture que le manager prend, s'il expérimente, s'il trouve les bons réglages, le scénar est vraiment qualitatif, et à l'inverse, soit s'il veut écrire le scénar à la place de son équipe, s'il n'arrive pas à aimer son équipe, s'il prend trop de distance, le scénar ne fonctionne pas, il n'est pas bon, soit il part dans tous les sens. Oui. Enfin, donc il y a vraiment une corrélation entre, le fait de trouver sa place en tant que manager et la qualité du scénar. Donc ça, c'est assez magique, j'avoue.
Et puis c'est sympa d'avoir trouvé cette idée du polar, ça change un peu.
Alors, en fait, on a choisi le polar parce que c'est un univers que tout le monde connaît. En fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde sait ce que c'est qu'un polar. Par contre, faire un bon polar...
C'est compliqué. Pas facile.
Donc c'est vraiment une mission un peu difficile. Il faut qu'il y ait un peu d'enjeu, un peu de challenge pour que ça fonctionne.
Ah, sympa. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes ou des exemples un peu marrants de ton expérience au sein de Formalutique?
Alors, il y a une anecdote que je trouve pas mal, que je trouve intéressant de raconter. C'était il y a 6 mois environ, j'étais en rendez-vous avec 2 membres d'un comité de direction qui avait décidé, donc d'une entreprise qui allait enclencher un gros projet de changement, qui allait être sensible justement. Donc ils s'interrogeaient légitimement sur ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour faciliter ce changement. Et donc du coup, lors du rendez-vous, je leur présente un jeu, donc je leur fais découvrir un jeu que je leur fais tester. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, enfin, ce qui m'a fait sourire sur le moment, c'est qu'avant de jouer, ils se sont sentis obligés de mettre une petite pancarte sur la porte avec marqué ne pas déranger, en m'expliquant très sérieusement qu'ils ne voulaient pas être surpris en train de jouer.
Oh.
Alors, sur le coup, ça fait sourire, mais après, ça questionne. On dit, mais en fait, ça veut dire voilà, que dans ce contexte, finalement, c'est la peur du jugement qui pilote le navire. Et donc, ça me questionne forcément dans un contexte où ils vont vivre un changement compliqué.
Oui.
Voilà. Donc, voilà, et je pense que. C'est malheureux, mais le jeu a des fois une image de pas assez sérieux, en fait. C'est des fois trop, c'est du jeu, donc ça a pas forcément sa place dans l'entreprise. Ça c'est encore un blocage de l'implantation qui est peut-être un peu handicapante, mais aujourd'hui, enfin, ce que je peux dire, c'est que 100% des personnes qui ont testé les jeux ne doutent pas de l'impact que ça peut avoir effectivement sur l'apprentissage.
C'est chouette. Ce que tu dis, ça me fait penser à ce que moi je rencontre dans ma pratique. C'est dès qu'on a une approche un peu ludique du management, il y a des a priori. Soit c'est pas très sérieux, soit on se dit qu'on se fait peut-être parfois un peu avoir. Et du coup, ça me conduit à te poser la question, est-ce que tu aurais des conseils pour des managers qui souhaiteraient adopter une approche ludique dans le cadre de la conduite du changement, mais qui n'auraient pas forcément la possibilité de faire appel à vous?
Alors, je reviens juste sur un point que tu as évoqué, parce que tu disais qu'effectivement, le jeu, il n'y a pas que la dimension ludique, en fait. Je crois que le management a une vision très normative, en fait. Et si on sort un peu de cette norme-là, quelque part, le manager prend un risque. Voilà. Et donc, c'est ça la difficulté. Le jeu, comme d'autres pratiques, effectivement, peut être jugé, et à un moment donné, l'organisation ne permettent pas forcément, n'acceptent pas forcément ce prix de risque qui est pourtant nécessaire en fait pour l'innovation. Alors après, par rapport à une approche ludique, c'est vrai que c'est pas évident de... Enfin, moi ce que je peux proposer, c'est peut-être dans les enseignements qu'on peut découvrir grâce au jeu, ce qu'on peut mettre aussi en pratique facilement en tant que manager, c'est déjà, par exemple, quand un collaborateur... les conseils que je connais, il y en a peut-être deux. Le premier, c'est que si un collaborateur effectivement n'est pas d'accord, avant d'essayer de le convaincre, peut-être te poser la question de qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas être d'accord. Et en général, dans ces cas-là, on se rend compte qu'il y a un petit morceau de vérité qu'on n'a pas forcément pris en compte, et qui finalement nourrit notre compréhension. Voilà. Donc je pense que le jeu en fait apporte une ouverture d'esprit parce que en fait ça incite, tout le processus le permet, le facilite. Ça n'empêche qu'on n'a pas besoin de jouer pour à un moment donné s'ouvrir un peu aux autres. Voilà. Oui. Donc ça, c'est peut-être une première démarche. Voilà. Après, la deuxième démarche, effectivement, c'est que le jeu facilite l'essai, l'erreur, la question, enfin, l'échec n'est pas dramatique, c'est du jeu, donc on ne perd pas grand-chose. Mais en fait, l'échec permet d'apprendre. Dans l'entreprise, c'est pareil. C'est comme si on n'essaie rien, on ne tente rien. Effectivement, on ne se plante jamais, mais on se prendra le mur qui arrivera au bout. Quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut encourager les initiatives, il faut être à l'écoute, il faut encourager les initiatives. Ça veut dire qu'il faut... Il faut féliciter l'échec, la réussite déjà, mais il faut aussi féliciter l'échec parce que, en fait, un échec, dans tous les cas, c'est quand même douloureux. Voilà. Mais en fait, ils sont inévitables et ils sont nécessaires pour apprendre. Donc, il y a dans les enseignements qu'on peut tirer du jeu, il y a déjà ça, c'est apprendre à s'ouvrir un peu aux autres, accepter des avis différents, voir ça comme un enrichissement potentiel et surtout, accepter l'échec comme lieu d'apprentissage.
Des bons enseignements en termes de posture managériale, c'est intéressant. Et du coup, toi, ta pratique du jeu en tant que loisir, quelle est-elle? Est-ce que tu as des jeux préférés?
Alors, déjà, je me suis fixé dans mes résolutions de début d'année. Je me suis dit, cette année, je vais essayer de jouer plus. Juste pour le plaisir.
Ouais.
Après, c'est vrai que, comme j'avais un peu tout à l'heure, vraiment, ce qui m'intéressait au départ, c'était le côté vraiment réflexion, logique. Mais au final, c'est pas forcément ces jeux-là qui ont le plus d'intensité en termes de vécu, par exemple. Voilà. Enfin, ça dépend sur quel registre effectivement on se situe. Et après, dans les jeux, y a un petit jeu que j'invite à tout manager qui se respecte effectivement de tester, voire même avec son équipe. Alors, c'est un petit jeu, ça s'appelle The Mind. Alors, les noms anglais. c'est un petit jeu coopératif et qui permet. En fait, c'est un jeu coopératif sur lequel il y a très peu de règles, encore une fois. Et qui permet de montrer à quel point, finalement, on peut s'accorder, on peut développer un feeling partagé. Voilà. Et on peut apprendre voilà, à se comprendre sans forcément voilà, avoir besoin d'outils trop complexes. Voilà. Donc, essayez The Mind. Après, il y a plein de petits jeux coopératifs en fait, qu'on peut essayer facilement. Anabi, par exemple, dans lequel. Effectivement, voilà. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que pour que ça marche, il faut essayer de comprendre comment est-ce que l'autre joue, positionne ses cartes. Et après, derrière, ça permet aussi, entre deux séquences de jeu, de s'harmoniser. De dire tiens, mais comment est-ce qu'on va s'organiser pour réussir à comprendre comment l'autre fonctionne voilà.
Pour y avoir joué, j'ai trouvé que c'était très difficile. Mmh. C'est un vrai challenge.
C'est vrai, mais The Mind, en fait, est peut-être la bonne porte d'entrée.
Okay.
Il y a très, très peu de règles. En fait, le principe est super simple. Il y a des cartes qui vont de 1 à 100. Mmh. Première manche, on distribue une carte à chacun. Et la seule règle, en fait, c'est qu'il faut poser, pour gagner, il faut poser les cartes dans l'ordre. Seulement, on ne sait pas les valeurs des autres. Voilà. Et donc, la variable, c'est combien de temps je dois attendre, le temps raisonnable, voilà, avant de poser ma carte. Et ce qui est marrant, c'est que assez rapidement, on se rend compte que qu'on arrive en fait à se comprendre. Je me rappelle de plusieurs cas où il y avait des chiffres, vraiment des écarts de chiffres vraiment importants. Et moi, j'avais par exemple le 49, l'autre avait le 51. Et alors, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le 49 qui est posé avant le 51, et ça dans quasiment tous les cas. Voilà. Pourtant, a priori, rien ne prédestine. Voilà.
C'est vrai que c'est des jeux qui encouragent à l'écoute et c'est pas toujours une posture facile à avoir au quotidien ou quand on est manager. Il faut vraiment être connecté un peu aux autres.
En fait, c'est ça, c'est s'intéresser aux autres et pas que sur le côté verbal, montrer qu'il y a plein d'autres choses qui se passent, voilà. Et créer un feeling partagé. À un moment donné, si on veut jouer, ça marche, c'est qu'on a réussi à avoir une compréhension des autres et on s'intéresse aux autres aussi.
Deux très bons jeux, je retiens. Et du coup, aujourd'hui, vous avez vos bureaux au sein de TCRM Blida, qui est un tiers lieu d'innovation. Et je voulais savoir si ça a changé quelque chose pour vous d'être immergé un peu dans cet écosystème numérique, start-up, art aussi.
C'est vrai. En fait, moi, ce que je trouve d'intéressant dans un écosystème comme celui de Blida, c'est sa capacité du coup à attirer et à rassembler finalement des personnes d'origine différentes, en termes de métiers différents, et donc cette richesse voilà, au niveau entrepreneurial, donc il y a des artistes, des artisans, il y a des entrepreneurs, il y a des start-up, il y a des personnes qui travaillent dans différents univers, numériques, les communautés sociales et solidaires, voilà. Et c'est dans sa capacité à rassembler des personnes dans un même lieu aussi, à créer, à faciliter les échanges finalement. Donc moi, en tout cas, c'est un lieu dans lequel je viens travailler avec plaisir et dans lequel, effectivement, on peut, au détour d'une conversation, d'un café, et bien, rencontrer des personnes intéressantes, avoir des réponses à des questions qu'on se pose un peu par hasard. Voilà, donc c'est, dans tous les cas, l'idée, c'est de favoriser finalement, ça c'est une démarche créative aussi, une rencontre d'idées qui ne sont pas forcément les mêmes, mais à un moment donné, il y a quand même une volonté partagée à Blida. On rencontre des personnes qui s'investissent, qui donnent tellement d'énergie et la plupart essaient quand même aussi un peu d'améliorer le monde. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté partagée.
Ça c'est beau, et c'est vrai. Et du coup, pour finir sur une touche un peu plus légère, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien et te nourrit dans ton travail ? Ça peut être une valeur, une pratique culturelle, artistique, ludique, sportive.
Alors, je pense que ma principale source de créativité au départ, enfin ce qui déclenche, je crois que c'est... comme dans l'apprentissage finalement c'est une intensité émotionnelle, c'est à un moment donné quand on ressent quelque chose fortement, que j'ai pu vivre mais qui ressort des fois des témoignages ou des lectures, ce besoin de comprendre et aussi de partager et de faire vivre, voilà, ça c'est peut-être ce qui m'anime au départ. Après j'écoute pas mal de musique en travaillant, ça me permet de, ça m'aide à réfléchir. Je joue beaucoup aussi, enfin j'essaye autant que possible. En fait, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est Je m'inspire en fait, je m'inspire rarement, je crois que je n'ai jamais fait vraiment de jeu directement,
okay.
mais ça développe en fait bah, des références et une intuition. Enfin, c'est, encore une fois, ça alimente ce processus créatif. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre voilà, le but c'est aussi d'en rencontrer, de multiplier finalement les canaux. Je lis de plus en plus. sous l'impulsion de enfin sous le conseil de Baptiste et de Raphaël sur l'influence, et c'est vrai que ça m'aide aussi à confronter, à approfondir les réflexions et à structurer un peu ma pensée. Et si dernier point quand même qui est aussi important, c'est faut aussi réussir à déconnecter, juste à se débrancher, voilà. Et pour ça j'aime bien regarder des séries.
Lesquelles par exemple dernièrement?
Ouais, c'est pas, ben, y a beaucoup de séries d'Europe du Nord que je trouve intéressantes, mais après j'essaie pas forcément de regarder des séries trop prenantes d'un point psychologique, parce que ouais. Le but justement c'est, je suis tellement branché tout le temps, mm-hmm. Le but c'est après voilà, de lâcher prise quoi.
Ok, super. Et du coup François, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019?
Alors, je dirais qu'un maximum d'entreprises aient envie de prendre soin de leurs salariés, de leurs équipes, de leurs managers. Et peut-être aussi peut-être qu'elles se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas d'arbitrage nécessaire entre prendre soin de l'humain et chercher à développer sa rentabilité. Voilà, les deux peuvent être combinés de mon point de vue.
C'est juste, c'est très beau. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver Format Ludique?
Alors... À Blida, à Metz. Je suis quelqu'un de très, très facile à rencontrer. Sinon, on va organiser à peu près tous les mois en fait, ce qu'on appelle des interludes. C'est des moments justement où on peut expérimenter des jeux, découvrir l'approche pédagogique. Donc là, on va en organiser à Blida, on va en organiser. J'ai travaillé avec des étudiants de l'IAE aussi, voilà, qui vont participer à l'organisation des événements. Et le plus simple, c'est peut-être m'envoyer un petit mail et pour qu'on puisse après derrière inviter à découvrir et à tester les jeux.
Super, et ben merci François.
Merci.
C'était super.
Merci. Moi, je parle toujours très vite.